Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
On est ensemble jusqu'à midi avec Pierre Rabadan, avec Pascal Duprat, avec Sarah Pitkowski et vous évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens les amis, j'ai un message de Guy, on parlait de France-Espagne 2006 il y a quelques instants, il me dit « Salut GG, j'étais en stage en BTS en 2006 en Catalogne, j'ai vécu le match là-bas à Barcelone et je peux vous garantir que ça a été un véritable traumatisme pour eux. Barcelone s'est transformé et les Ramblas sont devenus les Champs-Élysées. » C'était magique, tous ces Français qui prenaient la ville d'assaut. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt pour le tourisme qu'on prend d'assaut Barcelone. Mais c'est bien de se rappeler les bons souvenirs, hein, comme ça, quand on battait les Espagnols. Oui. Faut pas arriver trop en bonbon de torse non plus. Hein.
Attention. C'était il y a un petit moment.
Ouais, c'était il y a 20 ans.
Ça a un peu changé.
Ça a un peu changé.
Mais c'est bien de se rappeler de ces bons moments-là en espérant qu'on va en vivre d'autres, Marlène.
Ah bah, nous les Champs-Élysées dans une semaine ça nous branche hein, sur le papier hein. Évidemment on espère que ça va bien se passer pour nos bleus mardi, France Espagne mercredi, Argentine Angleterre, l'Argentine qui est passée par un trou de souris encore en prolongation face à la Suisse 3-1 sans Messi en sauveur cette fois-ci hein. Sur le buzzer on va se demander si cette Argentine immortelle est encore à craindre, notamment pour les bleus. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir un remake en finale. Vous retrouvez les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast. On a parlé du Tour de France, de la première semaine de Paul Sexas, de ce France-Espagne qui devient un classico pour certains, de la finale de Wimbledon avec Zverev qui toque à la porte des deux mastodontes, Sinner et Alcaraz. En fin d'émission, participez au jeu du sport aujourd'hui avec vos GG. Alors je vous préviens, ce ne sera pas du 2 contre 1. Il y a une quatrième GG qui va apparaître. Pour participer et faire du 2 contre 2. Vous verrez tout à l'heure. Remportez un bon cadeau aujourd'hui de 50€ à valoir sur Agfa Photoprint pour imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances, par exemple, dans un album photo. Pour remporter votre bon cadeau, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. Julien Benneteau n'est pas là aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde a sa chance dans les jeux. Allez tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est une image, ce sont des images sur le Tour de France avec ces masques, vous savez les fameux masques que l'on a vus pendant le Covid pour se protéger, ou la Covid, c'est selon. J'ai jamais vraiment su. Hein, on a jamais
fait.
Il y a deux écoles, exactement. C'est comme ceux qui disent le Wi-Fi et la Wi-Fi, c'est les mêmes. Ouais, sur le Tour de France, on a revu les masques pour se protéger de la maladie et des virus. On a vu Paul Sexas qui en a un désormais le matin. Vous avez écouté Léna Marjac tout à l'heure qui nous a dit que même maintenant, il utilise un stylo de son équipe pour ne pas prendre un stylo du public et se mettre à l'abri d'éventuels...
Nettoyer avant et après.
Ah non, mais t'imagines, ça y est, on arrive à un niveau maintenant. On avait Vingegaard pareil, donc on sort à nouveau les masques. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que votre corps, c'est votre outil de travail hein, quand vous êtes sportif de haut niveau, alors comme dans certains corps de métier évidemment, mais vous, voilà, c'est vraiment dans la compétition. J'aimerais qu'on parle de ça, sur la peur de tomber malade quand on est sportif de haut niveau, ou la gestion de tout ça dans la discussion. Pascal, alors toi en plus manager aussi derrière, ultra attentif, ça. Est-ce que tu étais un manager, est-ce que tu es un manager hyper hypochondriaque pour tes joueurs?
Non, mais très attentif par contre avec le staff médical. Et ça tranche avec ma carrière. Bon, c'était il y a bien longtemps où il n'y avait pas autant de suivi, où il n'y avait pas de précautions qui étaient prises, ou en tout cas beaucoup moins qu'il y en a aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est leur outil de travail et dans un domaine extrêmement concurrentiel. Un joueur qui est arrêté une semaine ou 15 jours parce qu'il a fait preuve de négligence sur son alimentation, sur le fait de se couvrir, de pas choper de grippe ou quoi que ce soit, ou de faire l'économie du vaccin, parce que certains le font pour ce qui est du vaccin de la grippe, eh bien ça peut te ruiner une carrière, ou en tout cas ça peut faire en sorte que ton concurrent, parce qu'ils en ont, ton concurrent te prenne ta place.
Mais quoi, t'étais attentif au vaccin de la grippe de tes joueurs, par exemple?
Oui,
c'est vrai. Ah ouais.
Bah, tu peux pas les obliger, mais ouais. Par contre, bon, voilà, je leur conseillais au même titre que les médecins.
Tu disais quoi? Tu disais, hey, toi, le défenseur, montre-moi ton carnet de santé.
Non, je lui disais, c'est sans risque pour toi, et c'est sans risque pour toi, et tu diminues la probabilité de choper la grippe.
À quel point t'étais derrière eux, même au quotidien, sur d'autres choses?
Bah, je sais pas, par exemple, quand je voyais un des mecs, quand j'entraînais Evian Tonon Gaillard, mon club de toujours, mon club de cœur, quand je voyais en hiver les joueurs sortir de la douche après le match, monter dans le bus sans bonnet, sans rien, ça me rendait fou.
Ah ouais,
j'ai franchement, discrètement, je trouvais les mots pour leur dire, mais t'es inconscient. Mais franchement, si tu viens choper la grippe, tu t'imagines.
T'étais comme Giroud, en fait. Giroud qui mettait les bonnets à Djibril Cissé.
Attention, Giroud, il a... Giroud est exceptionnel. Je n'étais pas Giroud. Je n'étais pas loin quand même.
Tu mettais un bonnet à la sortie de la douche, Pierre, quand il faisait froid?
Bah, c'est possible que j'ai oublié quelquefois.
Et je pense que certains de tes managers te l'ont rappelé gentiment. Ou ouais. C'est arrivé.
Moi, c'était plus une psychose collective, une psychose, entre guillemets, à l'approche des grands événements. C'est-à-dire à la phases finales, des matchs qui comptent, voilà, où là il faut pas rater l'échéance, donc tu fais peut-être plus attention que tout au long de l'année, ou parce que ce que tu disais, Pascal, un joueur ou une joueuse qui voilà tombe régulièrement malade parce qu'elle s'alimente mal, parce qu'elle se couvre pas assez, parce que elle a pas les bons réflexes, quoi. La sportive ou le sportif, il se met une balle dans le pied tout seul en faisant ça.
Mais ça veut dire quoi à l'approche des grands événements, des grandes finales?
C'est plus la psychose que toi individuellement tu rates.
Tu prends un gant pour prendre la barre dans le métro?
Non, pas jusque là, mais c'était avant Covid, bien avant. Je pense qu'il y a aussi maintenant.
Non, mais bien sûr.
Notamment, tu vois le masque, etc. Ça vient vraiment de, je pense, depuis le Covid ou la Covid.
Bon, non, mais du coup, c'est quoi? Tu faisais plus attention à
oui, tu fais plus
je sais pas ce que tu manges, à prendre plus de vitamines. Pas traîner avec tes potes qui sont malades.
Ouais, voilà, tu fais peut-être plus attention au contact avec les autres. Moi, c'est peut-être plus ça qu'on te refile quelque chose, quoi, tu vois. Voilà, donc,
le sommeil, la récupération, l'alimentation, oui, ça, tout ça aujourd'hui, c'est normalement.
T'as connu des
coéquipiers. Davantage quand t'approches des grandes compétitions, vrai, ou des matchs qui comptent pour toi. Ouais.
Des coéquipiers hypochondriaques à l'approche des grandes compétitions? Des grands moments?
Ouais, il l'était déjà le reste de l'année.
Mais, ah ouais?
Bah oui, il y en a toujours, hein, dans des groupes, t'as toujours des mecs hypochondriaques et d'autres qui sont pas très sérieux dans ce que disait Pascal. Quoi.
Mais qui était tout le temps malade, par exemple?
Le mec veut me tirer les vertus.
Bah ouais.
Il y avait des mecs qui étaient malades à l'entraînement. c'est vrai que là, on en a parlé.
Mais toujours apte le match.
Ouais, exactement. Non, mais c'est Christophe Dominici. Ça me fait plaisir d'en parler. Mais Christophe, il avait souvent des angines blanches. Et moi, j'avoue que je voyais pas trop ce que c'était, les angines blanches. Mais lui, il en avait une tous les 15 jours. Après, généralement, le jeudi ou le vendredi. Mais bon, il était toujours tellement fort lui. Les angines blanches étaient assez récurrentes.
Du lundi au jeudi.
Du lundi au jeudi. Sarah, on parle de la peur de tomber malade quand on est sportif de haut niveau. Est-ce qu'il y a une petite psychose? C'est vrai que y a l'alimentation notamment, on fait attention.
Oui. Ah oui, ouais. Je dirais. Enfin, psychose, je ne sais pas. Mais disons que comme on est dans un sport individuel, on choisit l'hôtel où on veut descendre. On choisit a priori les, enfin comme c'est une petite équipe qui se déplace, donc tu choisis les restaurants où tu veux aller dîner. Je dirais que les choses qui étaient psycho, je sais pas, mais auxquelles il fallait faire attention, c'est les fameuses clim, parce que en fait surtout pour les Européens, quand on vit pas dans des pays comme la clim et que tu débarques sur une tournée en Amérique, aux États-Unis,
la clim c'est l'ennemi des sportifs, hein. Ouais.
Ah mais c'est terrible, c'est-à-dire que quand tu montes dans les bus pour t'amener sur les sites qui enfin le shuttle, le fameux official shuttle de l'hôtel jusqu'au lieu d'entraînement, au lieu de match, tu rentres dedans, il fait -50 et là il faut qu'on fasse attention parce qu'on n'est pas trop habitué, donc il faut
Mais c'est ce que vivent les joueurs de l'équipe de France en ce moment aux États-Unis certainement,
oui.
Hein.
Mmh. Exactement, mais eux, comme ils montent dans leur propre bus, ils mettent, enfin, je veux dire, ils décident la température qu'ils veulent mettre. Nous, le chauffeur, il est américain, il a toutes les nationalités.
Tu vas pas couper la clim.
Tu commences pas à dire, vous baissez la clim, quoi.
Vous coupez, tu coupais la clim en rentrant dans ta chambre quand t'étais joueuse pour pas faire attention.
Ah oui,
Pierre,
oui,
toi aussi, tu coupais la clim. La nuit, tu coupais la clim. Pascal, t'enlevais la clim sur dans les
habitudes. Tu n'existais
pas,
t'avais le ventilo. C'était le ventilo.
Tu récupérais tous les éventails. Pascal. Non mais Sarah, sur ça.
Et après il y avait les gastro. Et oh, après il y avait les player
bon
lounge,
appétit,
là où finalement on déjeune tous. Et il suffit. Mais oui, mais suffit qu'il y ait une. Enfin, c'était souvent des buffets ou c'est des restaurations qui sont mises pour l'événement. Donc peut-être qu'il n'y a pas toute la chaîne du froid qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas.
Ah, mais t'as dû faire des tournois
un petit virus,
un peu,
une salmonelle.
Un peu obscur.
Ouais. Oui, et tu sais quoi? Et en parlant hier, je viens d'avoir un deuxième exemple qui est, que je vais vous raconter, qui est super rigolo. Là, j'étais en Ouzbékistan. Je jouais la demi-finale. J'étais tête de série 1. C'était la semaine avant Wimbledon. Je voulais avoir des matchs gagnés pour reprendre confiance. Et donc, je dois jouer une Ouzbék en demi-finale. Et j'ai mangé du riz blanc pendant toute la semaine. Hein. J'ai rien touché à on parle de l'Ouzbékistan il y a 22 ans. Hein. Donc, autant vous dire que il y avait que du riz blanc. Et j'avais faim avant la demi-finale et j'ai voulu toucher à autre chose. Bah, je vous le mets dans le mille. J'ai pas pu rentrer sur le court. J'ai pas pu rentrer sur le court le lendemain. Donc, j'ai dû faire WO. Et le match était télévisé parce que je jouais une Ouzbék. Quand je suis allé chercher mon prize money, on m'a dit, vous avez une amende. J'ai mis
c'est quoi ça?
C'est walkover, c'est-à-dire que je rentre pas sur le court, je peux pas.
Excuse-nous,
gastro. Voilà. Et donc je prends une amende et je vois -$500 sur mon prize money qui était déjà pas très élevé.
Ah oui, dans son monde, t'es malade et t'as pris une amende.
Et je lui dis mais pourquoi vous me retirez de l'argent? Il me dit bah parce que vous êtes pas présenté que nous on avait vendu le match à la télé. Ah bah oui, donc eux ils ont eu une perte. Et donc bah en plus de pas jouer la demi-finale, j'ai en plus perdu du prize money. Et une autre, c'est mon premier Roland Garros. J'ai donc 17 ans. Et donc vous savez, avant que Roland Garros commence, il y a le Kids Day. C'est les fameux matchs d'exhibition qu'on peut jouer
pour les enfants.
On peut ne pas. Pour les enfants, mais c'est des matchs d'entraînement. C'est des matchs d'entraînement pour en condition de match. Et moi, c'est mon premier Roland Garros. Donc j'ai une wild card. Donc je suis invitée. J'ai 17 ans. Et donc je joue. Je sais même plus contre qui je joue. Et donc je joue le match. Et à un moment, l'adversaire me sert un service dans le corps. Et au lieu de mettre ma raquette, je mets ma main gauche parce qu'elle me rentre dans le ventre en fait. Et puis la balle tombe et bon bah c'est pas, enfin j'ai pris, elle me touche pas plus que ça et donc je vais me replacer pour servir. Et là je regarde ma main gauche et je vois un œuf de pigeon sur mon petit doigt. Et là, je cours dans la glacière pour mettre la main dans la glacière. Donc, j'arrête le match d'exhibition. Et donc, on m'emmène tout de suite faire des radios, machin. On dit, vous êtes cassé le petit doigt. Et là, je me mets à fondre en larmes. Et le radiologue, il dit, mais c'est pas grave. Vous êtes droitière, vous allez pouvoir passer le bac. Ah, je fais, non, mais je m'en fous du bac, monsieur. Je devais jouer Roland-Garros dans 48 heures et toucher mon premier prize money, qui à l'époque était de 10 000 francs, 1 500 €. Et c'était beaucoup parce que ça payait mon billet pour aller à l'US Open. Et donc, mon premier Roland-Garros, je ne peux pas le jouer parce que je me suis blessée bêtement.
Ah mais là tu t'es blessée.
Et après je n'ai plus jamais tous les Roland Garros, je n'ai plus jamais joué les Kids Day parce que je voulais pas me blesser.
En touchant la balle. je me suis dit c'est quand même.
Non, c'était la blessure bête de c'était pas la maladie mais donc je n'ai plus jamais joué cette journée d'exhibition parce que je voulais être sûre de pouvoir. Non,
mais
jouer
en fait le truc c'est qu'il faut quand on est sportif de haut niveau, j'imagine que parfois on doit presque avoir envie de se mettre dans le papier bulle, hein, tellement il faut faire attention pour être au niveau. Tu sais, on est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, la peur de tomber malade quand on est sportif de haut niveau. Pascal, juste avant de t'écouter, moi j'ai le souvenir la semaine dernière, quand on était à Barcelone avec Marc Madiot, en allant au studio, et il nous a expliqué que désormais, pour leur nuit à l'hôtel le soir, la veille à chaque fois, ils ont quelqu'un de leur équipe qui vient et qui change tous les matelas. Et qui en fait dératisse pratiquement les chambres des coureurs et notamment la climatisation pour tout nettoyer en fait pour que les coureurs justement arrivent dans un environnement le plus clean possible quoi. C'est Tchernobyl.
Mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop?
Oui, mais alors Marc nous disait
pourquoi est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'excès.
Ouais, ils changent les matelas. Ils ont chaque. En fait, ils viennent avec leurs matelas. Ils viennent avec leurs matelas. Et leur cuisine. Ah, tu savais pas ça, Pierre? Maintenant, c'est comme ça sur le tour. Hein. Ah, en fait, ils arrivent dans l'hôtel. Ils font la révolution, les mecs.
C'est pas une question de confort.
Pour une question de confort.
Le matelas.
Et pour aussi, j'imagine. acariens, tu vois, les trucs comme ça,
les acariens,
les allergies. Thibaut Pinot qui était très qui était souvent malade, qui était assez sensible justement à tous les virus qui traînaient sur le tour, Marc nous disait que il y a eu quand même une incidence derrière pour Thibaut. Alors est-ce que c'est aussi je sais pas dans la tête hein, peut-être, mais en tout cas ça a servi. Pascal, tu voulais rajouter un truc?
Oui, parce qu'il y a le grand paradoxe du haut niveau, les sportifs, en fait, plus ils sont affûtés, plus ils sont fragiles.
Ah oui.
Plus un sportif est prêt, plus ses défenses immunitaires, elles sont moindres.
C'est vrai.
Parce qu'il est à son pic de forme. Et c'est souvent là que tu chopes le truc qui va te clouer, alors que tu as fait moult efforts pour être à ce pic de forme. Donc c'est aussi ce qui rend plus hypochondriaque les managers, tous ceux qui sont autour des sportifs de haut niveau, pour les prémunir en fait. Et aujourd'hui, on doit constater que en tout cas dans mon sport, dans les grands clubs, je voudrais bien savoir combien il y en a en France parmi les 18 de Ligue 1, les grands clubs se déplacent avec leurs cuisiniers. C'est-à-dire qu'ils investissent les cuisines de l'hôtel pour faire leur propre cuisine.
C'est pour bien manger là, ça c'est pas pour
bien manger, mais aussi pour l'hygiène, aussi pour que l'hygiène soit présente.
David.
Là où t'as raison, Pascal, de le souligner, c'est que voilà, quand t'es à ton meilleur niveau, c'est là où t'es le plus fragile, t'es le plus proche de te blesser. Et tu peux être le plus proche de tomber malade. Et aujourd'hui, et moi je trouve que depuis le Covid, évidemment, les gestes barrières, etc. Il y a j'ai vu aussi des sportifs de niveau qui serrent plus trop les mains quand ils arrivent à des échéances.
Il y a des changements de comportement.
Ouais, donc ça check du coude, quoi. J'ai déjà vu ça, quoi. Voilà, parce que les mains, ça peut transmettre des virus, quoi. Donc.
Non, mais parce que en plus le sport de haut niveau, c'est ça. Vous êtes toujours en train de jouer avec la ligne, en fait, hein, entre le. Ça. Voilà, on dit souvent que vous jouez jamais à 100% au niveau des blessures. On joue jamais à 100% aussi, j'imagine, de sa forme.
Ça dépend des sports, après. Dans le sport que j'ai fait.
Et en plus, tu peux pas te soigner avec ce que tu veux.
Attends d'être à 100% et de pas avoir mal, tu fais un match sur 10. Quoi.
Non, mais ce que je disais,
c'est que. Tu joues jamais.
Tu joues jamais. Non, mais ce que je disais aussi, c'est que tu peux pas prendre n'importe quel médicament aussi. Il y a des protocoles antidopage.
T'as raison de le dire. Ouais.
Non, mais Sarah,
tu penses
jouer avec ça, quoi.
Tu te fais, je sais pas, tu te chopes une petite grippe ou un petit virus, tu te dis, je vais me rendre, là je parle d'un truc qui est totalement basique, du guronzan, parce qu'il faut retrouver, oui, mais t'as un contrôle, et que t'as pris 5 guronzan pendant une semaine,
t'es
positif, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, il y a cette, comment dire,
ce spectre.
C'est pas cette psycho, oui, ce spectre de dire, ok, j'ai besoin d'un coup de fouet ou j'ai besoin de retrouver la forme parce que j'ai chopé un petit microbe qui passait par là. Tu peux, si tu laisses le temps faire son œuvre, t'es pas prêt pour ta compétition. Et si tu prends un médicament, tu t'exposes aussi à de quoi il est composé. Donc, mais c'est vrai que je disais que j'étais beaucoup plus jeune que Pascal, mais non, mais on vient tous à peu près de la même génération. Pascal,
on n'est
pas très loin.
Hein.
On n'est pas très loin. Ouais, la vérité, c'est qu'on n'est pas très loin. Mais c'est que, en plus, ça a tellement évolué depuis le temps où nous étions sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que la performance, l'amélioration de la performance, elle est aussi liée à tous les à côté, la performance qu'on peut y mettre dans tous les à côté.
Et aujourd'hui, les médecins ont pris un rôle hyper important dans les staffs aussi. Hein.
C'est pour ça que, Sarah, tu parlais des médicaments, mais moi j'avais un réflexe, c'est que dès que j'avais un truc qui n'allait pas, j'appelais mon médecin pour savoir si j'avais le droit de prendre quelconque médicament, quoi.
Ah ouais, c'est vrai, t'as pris quoi, ton médecin généraliste ou le médecin du club?
Le médecin du club. Il me disait, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je peux prendre?
Pour pas être positif.
Ou, à l'inverse, tu vois, quand tu ressens quelque chose et que tu dis, tu veux aller vite, tu dis, est-ce que j'ai le droit de prendre ça, quoi. Donc, et ça devrait exister dans toutes les infrastructures. Moi, je suis souvent surpris des sportifs de haut niveau qui disent,
j'ai
pris ça et je savais pas que c'était interdit. Il faut inverser la démarche aussi. Mais oui, ça fait partie de cette psychose de pas être performant, d'être malade.
Dans notre sport, les garçons sont sensibilisés. Hein, ils ne prennent rien sans l'autorisation du médecin.
Sans demander.
Du club. Non, il faut aussi savoir pour nos auditeurs que dans n'importe quel sport professionnel, aujourd'hui, vous avez des suivis longitudinaux, vous avez des contrôles inopinés, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'entraînement.
Vous avez le passeport.
Ils contrôlent tout le monde.
Passeport biologique.
Après, pour prendre ton petit paracétamol, ça va aller, je pense, non?
Oui, parce que c'est pas inscrit au, oui, voilà, au tableau, mais
bien sûr.
Tu, ouais, tu as la liste des médicaments, ouais, qui sont inscrits au tableau.
Oui, mais et cette liste, elle évolue.
Dans tous
en
les
plus
sports, les corticoïdes, par exemple, c'est difficile, quoi. Non, mais c'est vrai. Dans, bah, oui. Jérôme le dit souvent, hein, sur le Tour de France, bah, y a des équipes qui veulent pas les utiliser, par exemple, et puis c'est un peu encadré aussi également. Donc il faut faire attention.
Quand tu es asthmatique et que tu dois avoir ton traitement, enfin, je veux dire, il y a aussi des autorisations.
À une époque, il y avait beaucoup d'asthmatiques.
Ouais, c'est vrai, il y a des sports où il y a beaucoup d'asthmatiques, il y a eu des recrudescences et des périodes aussi, des époques.
Ouais, il y a des périodes. Et puis après, ils ont évolué, ils ont trouvé d'autres sources, ouais, d'amélioration.
Non, mais puis après, il y a des sports qui sont aussi plus ou moins compliqués. Par exemple, dans le Tour de France, là, on le disait, quand tu es dans un peloton de 200 coureurs, malheureusement, s'il y en a un qui est malade, tu es tellement proche toute la journée que ça pose problème à tout le monde. Le tennis, tu es dans un contre un face à l'autre en face. Bon, a priori, les distances de sécurité.
Les distances, ouais, t'es à 23,77
mètres. Mais bon, t'as les payeurs lundi, tout ça, mais le rugby dans une mêlée, par exemple. Ouais, voilà, il y en a un qui coule du nez.
Ça me paraît plus proche que sur un peloton. Pardon. Non. Un peloton, t'es en extérieur.
Non, mais attends, c'est déjà arrivé ça que dans une mêlée, quoi. Dans une mêlée, il y en a un qui rend malade tout le monde.
Non, j'ai pas ce souvenir-là.
T'imagines le truc. On fait des mêlées qu'on se touche avec les coudes.
Il y a tout le pack qu'à la gastro.
Ouais. Et ben voilà, 11h26, dimanche. Bon brunch à tous. Allez, on referme la porte du vestiaire. Mais c'est intéressant d'avoir un petit peu l'envers du décor, hein, parce que vous tombez malade comme tout le monde, hein, en fait. Sauf qu'il y a des choses à gérer, il y a les compétitions qui arrivent, il y a la pression, il y a ce qu'il faut prendre et ne pas prendre, et c'est forcément ce que se posent les coureurs du Tour. Hein. Par exemple, il y a Arnaud Daly, un des sprinteurs qui a abandonné il y a quelques jours, certainement parce qu'à un moment donné, malade, il pouvait pas se soigner comme il voulait, et puis accessoirement parce qu'en plus, ils ont 200 km à faire tous les jours, les amis, sous 40 degrés. Quand t'es malade, imagine faire ça. Allez, les amis, évidemment, à retrouver en podcast, en téléchargement sur toutes les plateformes, le vestiaire, bien sûr. On va revenir dans un instant pour parler de la Coupe du Monde de foot à nouveau. On connaît désormais l'autre demi-finale. Il y aura France-Espagne, mais également Angleterre-Argentine. L'Argentine, passée par un trou de souris, l'Argentine immortelle, est-elle encore à craindre? Vous nous appelez au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Et le troisième but pour l'Argentine, Martinez s'invite à la fête. L'Argentine va retrouver l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde.
Les grandes gueules du sport.
Georges Quilmeau.
Ah, je peux vous dire que Argentine-Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, ça va être une demi-finale musicale. Hein. Là, c'est on n'est pas loin d'être peut-être sur les deux groupes de supporters
les plus chauds.
Les plus chauds, ouais, effectivement. Et en plus, il y a évidemment un passif historique, on le sait, entre Argentine et Anglais, avec la guerre des Malouines en toile de fond et la souveraineté encore aujourd'hui, parce que les Argentins continuent de réclamer ces îles. On va en parler, même s'ils ne veulent pas trop en parler du côté de l'équipe argentine. Ils veulent dire que ce sera un match de football. Et rien qu'un match de football, pas sûr que les supporters le prennent comme ça. Hein, pour ce match mercredi à Atlanta, il y aura France-Espagne mardi et donc Argentine-Angleterre. Quel dernier carré! Les jeux du sport dans un instant, les amis, participez, hein, vous pouvez encore vous inscrire pour jouer avec vos GG et remporter un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint pour imprimer vos photos de vacances et faire un magnifique album. Pour participer, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7 3216, sport au 7 3216. Mais d'abord, donc, on vient d'en parler, donc le pire cauchemar de nos bleus en 2022 se refuse à quitter la Coupe du Monde cette nuit sur RMC. Face à la Suisse, l'Albi Céleste est encore revenu entre les morts.
RMC, les GG sur le buzzer.
Le pied gauche de Léo Messi, c'est parti. Oh, la bête, c'était le but. Le but pour l'Argentine. Alexis Macalister. Oh, le caviar déposé par Léo Messi. Et l'Argentine mène 1-0. Le but de Macalister. Endoy. Et le but. La but pour la Suisse. Oh, c'est mérité avec ce 1-2. Endoy, Ricardo Rodriguez, un partout entre l'Argentine et la Suisse.
Et c'est fini.
Fin des 90 premières minutes, un partout entre l'Argentine et la Suisse. C'est le moment de la prolongation. Yann Alvarez frappe enroulé. Et le but. Le but. Le but. Julian Alvarez. Le troisième but. suite à la fête, l'Argentine va retrouver l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde. Des retrouvailles historiques après 98, après 86, c'est la main de Dieu. On a déjà ADN.
Eh ben, l'Argentine, c'est comme Michael Jackson dans le clip Thriller. Hein. C'est ça, ils sont sous terre et puis ils ressortent toujours comme ça. Il y a la main qui arrive là. On est là et on va danser avec tout le monde. Ils ne veulent pas mourir. Ils veulent continuer de hanter leurs adversaires après avoir survécu aux prolongations face au Cap-Vert en 16e. Après avoir inscrit 3 buts en 13 minutes pour renverser l'Égypte en 8e dans le temps réglementaire, l'Albi Céleste à nouveau fait peur contre la Suisse avec un succès, vous l'avez entendu, en prolongation. Cette fois-ci, le héros ne s'appelle pas Messi, mais Lautaro Martinez ou Julian Alvarez. Les Argentins donc face à l'Angleterre pour un match lourd en symbole mercredi à Dallas. Les GG, je vous pose cette question. Est-ce que cette Argentine, cette albicéleste immortelle est encore à craindre? Pascal?
Oui, Sarah? Plus que jamais.
Bah oui, oui, oui.
Pierre?
Oui.
Je les crains pas, mais si on les joue, ce sera en finale, donc forcément, il faudra les craindre.
Vous votez, évidemment, vous participez sur WhatsApp au 06 12 424 424 et on vous attend au 32 16. Jérôme Sillon a commenté le match à Kansas City cette nuit. Salut Jérôme.
Salut les GG.
Jérôme, encore une fois, les Argentins s'en sortent. Tu as rencontré les acteurs, le discours c'était quoi? Nous sommes immortels côté argentin?
Alors le discours c'était d'abord reconnaître que l'Argentine s'est qualifiée sans briller et dans la douleur. L'aveu est signé du sélectionneur Lionel Scaloni.
Aujourd'hui honnêtement la chance a été de notre côté, c'est la vérité. Parce qu'ils ont eu un joueur expulsé. À partir de là l'équipe est passée à l'attaque. Il faut être réaliste, nous avons encore beaucoup de choses à améliorer. Mais gagner rend toujours tout plus facile.
Cette fois, ce n'est pas le général Léo Messi qui a sauvé l'Argentine, mais ses lieutenants, Julian Alvarez et Lautaro Martinez, buteurs en prolongation, et aussi cette inébranlable abnégation que raconte le premier buteur Alexis Mac-Allister.
Ce qui nous anime, c'est la passion, l'envie de gagner. On est poussé par l'amour des supporters, la connexion qu'on a avec eux, et puis il y a la qualité des joueurs aussi. Il faut maintenir cette passion et cette envie de gagner.
Mais après 3 qualifications fortes en émotion contre le Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse, même les supporters commencent à fatiguer.
C'est très difficile de supporter cette équipe. On sort de 3 matchs mal embarqués et quasi impossibles à gagner. Et puis les joueurs montrent qu'ils peuvent surperformer et être des génies. Cette sélection est une sélection qui donne tout, mais qui nous fait souffrir, beaucoup souffrir en tant que supporters.
Il va pourtant falloir vite retrouver des forces physiques et mentales parce que se présente l'Angleterre et cette rivalité historique sur fond de guerre des Malouines et demain de Maradona au Mondial 86.
Exactement, merci Jérôme. Hein. Il y a même eu également en 98, souvenez-vous, une confrontation Argentine-Angleterre qui avait été très très chaude au tir au but avec notamment l'expulsion de David Beckham à l'époque. Il y a un gros passif. Cette Argentine immortelle est-elle encore à craindre? Pascal, tu as dit oui, oui plus que jamais.
Oui, oui, parce que plus on avance dans la compétition, plus on pense que l'Argentine va se faire éliminer, et plus les Argentins font preuve de résilience. On sent aussi servi par, on va dire, je vais pas dire la chance, mais le destin. Hier encore, quand les Suisses se voient infliger un deuxième carton, c'est-à-dire un carton inversé, d'abord donné à Leandro Paredes, l'Argentin, ce carton jaune, et puis ensuite donné à Mbolo parce qu'il a simulé, et c'est synonyme d'expulsion, donc à partir de là...
C'est les nouvelles règles, les là, on Suisses... rappelle, on peut revenir sur les cartons jaunes,
c'est logique,
justement
ouais.
Quand il y a une erreur, et c'est pour ça qu'on
parlait de le ou la Covid, ça c'est le ou la VAR, qui cette fois-ci a jugé, est revenu, a déjugé l'arbitre, est revenu sur la décision. Et puis, pour ma part, il y a le plus beau but du monde, de la Coupe du Monde, c'est celui de Julian Alvarez. Franchement, il a nettoyé la lucarne, il a mis un but merveilleux à la 112e minute. Deuxième mi-temps des prolongations. Bon, les Argentins, ça va être dur contre les Anglais. Je vais pronostiquer la victoire de l'Angleterre. Je vais pronostiquer la victoire de l'Angleterre, mais franchement, j'ai jamais été aussi peu sûr de mon prono.
Parce que là, ils sont à la limite à chaque fois. Pierre, t'as joué avec des joueurs argentins, t'as joué contre les Pumas, c'est tout. Tu connais un peu ce qu'on appelle la garra, hein, c'est la faim qu'il y a en permanence. ils ont un truc en plus quand même, les Argentins, qui s'activent parfois et qui peut faire la différence au-delà du talent que tu peux avoir sur le moment.
Ouais, ils ont une connexion et une identité hyper forte qui font que collectivement ils sont pas bons quoi depuis le début du mondial, mais ils ont toujours cette cette volonté de pas mourir quoi, voilà, et de s'en sortir, et pour l'instant ils l'ont bien fait avec souffrance.
Toi, tu l'as senti ça en affrontant les Argentins parfois.
Ouais, bien sûr, ils ont quelque chose vraiment d'identitaire très fort.
Ouais, bien sûr.
Parfois pour le pire.
Mais, jouer avec la limite.
Mais ouais. Voilà, mais c'est clairement ça qu'on ressent. Après, moi, je disais que je les crains moins parce que je trouve que collectivement ils sont pas au niveau des meilleures nations.
Ils sont pas au niveau peut-être d'il y a 4 ans en tout
mais,
cas.
Mais
c'est
voilà,
une équipe, c'est sûr.
Ils ont des joueurs de grand talent et peut-être.
Ils jouent par à-coup ou par intermittence.
Avec le plus grand d'entre eux, mais oui, t'as raison. Ils jouent par intermittence et à un moment ils peuvent faire basculer le truc.
Et ça peut leur causer. Ouais.
Mais là voilà, après t'es sur les matchs qui comptent à la fin, et ils seront pas loin de.
Puis ils ont quand même un factoriste qui hier n'a pas marqué mais était passeur. Bon, c'est Messi, parce qu'il faut quand même saluer.
C'est à lui que je pensais.
La performance de Messi depuis le début de la Coupe du Monde. Bon, c'est quand même 8 buts inscrits pour ce joueur qui joue aux States et qu'on pensait en retraite.
Ouais, mais alors je vais quand même donner une statistique qui peut être importante, Pascal. C'est que Messi, là, ils ont joué 2 prolongations face au Cap-Vert hier à la Suisse. 330 minutes jouées en 8 jours. Il a 39 ans, Messi, en étant protagoniste. C'est sur Alice, mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas faire la différence? Toi, Sarah, tu continues de les craindre, les Argentins, peut-être plus que jamais?
En fait, sans rentrer dans les détails de leur match, certes, ils mettent des buts, en tout cas Messi est dans la course pour être meilleur buteur, tout comme Mbappé. Ils en prennent aussi beaucoup, donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut en marquer un de plus que l'adversaire au final. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas uniquement dans le foot, c'est le sport en général, c'est quand tu arrives au bout d'une compétition et que tu t'en es sorti par la bonté du Saint-Esprit, mais toujours de manière ric-rac. Il faut se méfier des équipes ou des joueurs de tennis qui, tu sais, dont on pense qu'ils vont perdre à chaque match parce que tu t'en sors par vraiment de manière difficile. Il faut toujours se méfier des équipes un peu blessées, exactement, parce qu'en fait ils sont animés par une sorte d'invincibilité, c'est-à-dire que face à l'Égypte, ils étaient peut-être dans la tête, il y en a beaucoup qui pensaient qu'ils étaient déjà au vestiaire quoi. Mm-hmm. Et donc te sortir comme ça, tu sais, d'être un peu un des survivants. Je me méfie de ces équipes là parce que tout au long de la compétition, finalement, ils sont pas inquiets, même s'ils sont menés au score, parce qu'ils ont réussi à s'en sortir. Donc ils sont animés d'un truc un peu indicible. Au-delà de la technique, je me méfie de ces collectifs-là, en fait. Je me méfie beaucoup de ces collectifs-là. Après, il y a le facteur fatigue. Il y a un moment, c'est mathématique.
Et on a vu surtout des joueurs qui étaient hyper importants, on va dire, comme étant moteurs il y a 4 ans, qui n'arrivent pas à apparaître. Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, qui tirent la langue. Et à un moment donné, ça fera peut-être la différence.
C'est encore là.
Mais ce que disait Sarah, Pierre, ça te parle, t'as dû le vivre aussi, j'imagine, dans des matchs de rugby, ou peut-être toi-même. Avec ton équipe, mais le côté bête blessée, en qui plus personne ne croit, tout le monde t'imagine mort, et derrière tu survis. Ça te rend dangereux.
Bien sûr, c'est un facteur de confiance, même si à chaque fois c'est difficile, etc. Mais à un moment, tu penses que tu peux plus perdre. C'est-à-dire quand tu multiplies les exploits, je pense que en termes managériales, tu t'appuies aussi là-dessus.
C'est motivant.
Parce que quoi, tu dis dans les dernières minutes, tu te dis on peut encore le faire en fait.
Tu penses qu'à chaque fois le scénario la pièce va tourner du bon côté quoi. Donc oui,
il y a aussi un paramètre très important dans cette Coupe du Monde, c'est que ça ne vous a pas échappé, mais la ferveur populaire. Pour l'Argentine, le nombre de supporters argentins dans les tribunes, c'est simplement impressionnant.
Ah bah ils sont
toujours
Ils sont portés,
ils sont toujours majoritaires. Ah, bah, quelque chose, la nation en face.
Ah, ils arrivent toujours à
jouer à domicile, en fait.
Mais après, il n'y a plus que des Européens, donc forcément, en termes de.
Il y a une grosse diaspora argentine, on le sait, aux États-Unis, mais il y en a beaucoup qui ont réussi à se déplacer, c'est toujours comme ça. Hein. Mmh. Mais là, il faut quand même voir qu'il va y avoir une demi-finale face aux Anglais. Et qui va être le plus entendu, qui sera le plus supporté, parce que c'est deux équipes qui sont un peu dans des cas similaires, c'est-à-dire portées par un élan populaire, par quelque chose d'un peu mystique. On le sait, et à quel point ça peut jouer, Pascal.
Oui, mais Dieu merci, du moins Deschamps merci, des quatre nations qui restent en compétition, celle qui nous laisse la meilleure impression athlétique, psychologique, technique, c'est l'équipe de France. Mmh. Donc parmi ces quatre nations...
On n'a tellement pas eu de match trop difficile. Enfin, tu vois, j'ai peur du faux pas, moi. J'ai peur du faux pas.
Comme le disait Georges, les prolongations ajoutées aux prolongations, au bout du compte, ça fait quand même des minutes passées. Et là, pour ceux qui vont aller en finale, la fraîcheur va compter. Même si l'excitation de disputer une finale, j'imagine, va dépasser tous les mots. Mmh. Mais malgré tout, si on prend l'exemple de Messi, si Messi il est un peu moins bon sur ce match-là, un peu moins...
C'est pas anodin, peut-être. Et le match d'avant, où il apparaît vraiment qu'un quart d'heure, on rappelle, sur la fin du match. J'ai plein de messages sur WhatsApp, évidemment. Hein. Vous savez que la rivalité avec l'Argentine, elle alimente les commentaires. Il y a beaucoup d'envie de revoir un France-Argentine en finale pour prendre la revanche. Christophe me dit, les GG, moi, me concernant, les Argentins, ils passent trois fois proches de sortir. La quatrième sera la bonne face aux Anglais. Je pense qu'on va pas les retrouver en finale. Bernard me dit, moi, je pense qu'on va retrouver les Anglais qui cherchent une victoire depuis 60 ans, ils sont aussi portés par ça, hein. Football is coming home, de le ramener à la maison et d'aller chercher cette nouvelle étoile. Romain me dit rien à craindre, ils vont se faire marcher dessus par les Anglais. Voilà, il y a globalement, vous êtes peu à croire que l'Argentine va rejoindre la finale. Alors évidemment, il y a tous les messages.
Moi, je suis pas, je pense que ça va être pronostic qui seront en finale.
Angleterre-Argentine et l'Argentine qui passe face aux Anglais.
France-Argentine en finale.
Oh là là, le retour. Vous savez, en Argentine, vous savez que je suis le football argentin évidemment et que là, le petit discours aussi, c'est que les médias disent ça ressemble beaucoup au Mondial 90. Souvenez-vous, l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde en 86 avec Maradona en finale face à l'Allemagne. Le Mondial suivant est vraiment pas beau. Il perd même le premier match face au Cameroun. Et après tous les matchs, huitième de finale, c'est poussif contre le Brésil, il passe. Quart de finale, il passe au tir au but contre la Yougoslavie, 0-0. Demi-finale, il passe au tir au but contre l'Italie. Ils retrouvent leur adversaire de 86 en finale. C'était un back-to-back, c'était Argentine-Allemagne. Cette fois-ci, l'Argentine avait perdu. Donc peut-être que ça peut servir et inspirer les Français. C'est ce que je veux dire. Allez les Bleus, évidemment, vers cette troisième étoile. On va en reparler, évidemment, ça va monter en température. Et qui sait quelle finale on va vous présenter dimanche prochain dans les grandes gueules du sport. Toutes les infos à suivre, évidemment, sur notre antenne et sur rmcsport.fr. France-Espagne, Argentine-Angleterre, le dernier carré. Et dans un instant, le dernier carré des grandes gueules du sport, c'est les jeux. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Sarah Pitkowski, avec Pascal Duprat et avec Pierre Rabadon. Tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Un nouveau joueur arrive. A new challenger is coming. Bonjour Christophe Cessieux.
Bonjour les copains, comment ça va? Je ne viens que pour jouer, je ne viens pas pour travailler, je ne viens que pour jouer dans cette émission.
Et pensez-y tous, il y a une vraie responsabilité. Vous savez bien que le résultat a une vraie influence sur l'humeur de Christophe. Donc, c'est l'avenir de l'Intégral Tour cet après-midi qui est en jeu.
Vous allez être sympa avec moi, vous voulez avoir une bonne émission cet après-midi? Laissez-moi gagner.
On n'est pas là pour être sympa avec toi et tu le sais bien. Ce sera donc du 2 contre 2, vous défendez un auditeur. J'aurais parti les équipes. Équipe Christophe Cessieux avec Pierre Rabadon.
Yes, mon Pierrot, tu vas voir.
Il va falloir que tu sois bon.
Face à l'équipe Pitkowski Duprat. Eh oui, parce que Sarah était tellement sympa avec Pascal en disant qu'elle était plus jeune que lui. Et il était aussi jeune que lui. À un moment donné, il fallait vous mettre ensemble. Je rappelle qu'il y a une question impossible activable par un seul joueur par émission. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise, c'est 1 point en moins. J'accueille les auditeurs. Anthony qui nous appelle de la Nièvre et à l'île d'Isère. Bonjour les amis.
Bonjour.
À Lille, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cessieux Rabadon ou avec Duprat Pitkowski.
C'est sûr, maintenant.
Ok, et donc Anthony, tu pars avec l'équipe Pitkovski Duprat. Allez, je vous rappelle qu'il y a un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint à gagner. Les amis, les GG, vous vous concentrez, c'est pour vous. Question à une seule réponse. Une seule réponse possible. Si vous donnez une mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Les Bleus du rugby étaient en Australie hier. Donnez-moi le nom d'une équipe qui sera dans le groupe du 15 de France à la Coupe du Monde en Australie.
Oh là.
C'est pas ça.
Oh mince.
Une équipe.
L'Écosse.
Non, éliminé Pascal. Une équipe qui sera dans le groupe du 15 de France à la Coupe du Monde en Australie.
Bah là où ils vont jouer, Japon.
Japon. Hein.
Japon, Sarah.
Oui, Sarah.
Donné la réponse,
oui, Sarah.
Elle était mauvaise la réponse pour l'autre équipe.
Bah oui, mais non, c'est chacun joue pour.
Non, parce qu'on va jouer contre le Japon là. Le premier qui match, non, c'est pas ça.
Pierre, tu me plais parce que t'es déjà en train d'essayer de.
Mais non, mais. Je croyais que c'était.
Je suis nul.
Il y avait Japon, États-Unis et Samoa. On n'y est pas encore dans notre Coupe du Monde en Australie. Hein. On n'y est pas encore. Alors que le tirage au sort a été effectué il y a 10 ans, je vous rappelle. Ça marche comme ça la Coupe du Monde. 1-0 pour l'équipe Pitkovski Duprat. Question à une seule réponse. Nous sommes en 2026. Quel Français a fini sur le podium du Tour il y a 10 ans ?
Pinot.
Non, éliminé, Christophe.
Ah non, c'est une réponse.
Eh oui.
Ah.
Si c'est pas Pinot.
Bardet.
Ah, oui, Sarah.
Il finit deuxième.
J'ai bien révisé.
Bon, exactement.
J'adore Sarah. Sarah qui, en plus, je vous rappelle, a une migraine. Sarah qui a une migraine. Donc, deuxièmement.
Elle a révisé toute la nuit, c'est pour ça.
C'est pour ça qu'elle a une migraine. Question auditeur, c'est pour vous, Anthony et Halil. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, je peux identifier. Attention, Christophe est déjà au fond du trou. Anthony et Halil, qui vient de gagner deux étapes du tour ? Comment ? Pas facile.
On peut répondre, nous ?
Non.
Je peux les aider ?
Ouais. 5.
Arrête.
On peut les aider ?
3.
Ça commence par 2, un M.
Un M.
C'est perdu. Tim Merlier, le belge Tim Merlier qui a gagné au sprint. J'ai l'impression que beaucoup ont fait la sieste pendant l'intégral tour.
Comment ça ?
C'est ça qui nous accompagne.
Tu crois qu'on les a pas tenus en haleine pendant des heures et des heures, Georges ?
On est là pour rendre service à nos auditeurs. Christophe, c'est pas grave s'ils s'endorment, ils sont là. Tant qu'ils disent qu'ils écoutent RMC derrière. On vous embrasse, les millions d'auditeurs à les écouter tous les week-ends. Question à une seule réponse. 2-0 pour l'équipe Pitkovski Duprat. Angleterre-Argentine en demi-finale. Quelle star anglaise avait été expulsée lors de leur confrontation en 98? Beckham. Bien joué, Pierre Rabadan.
Bien joué.
Point pour l'équipe Rabadan, c'est sûr, je l'avais dit. Eh oui, il faut être attentif. Et tu l'as été, tu reviendras dans les grandes gueules du sport. Question à plusieurs réponses. C'est un qui suis-je.
Qui suis-je?
J'ai gagné 7 fois Wimbledon chez les hommes. Je ne suis pas suisse. Je ne suis pas serbe, je ne suis pas britannique.
Sampras.
Pete Sampras, Pascal.
Oh, c'est bien joué.
Merci. Voilà. J'attendais.
Bravo, Pascal. 3 pour l'équipe Pitkovski Duprat.
Super, Pascal.
Question.
Merci,
Sarah. Question auditeur. C'est pour vous, Anthony et Halil. Vous donnez votre réponse et votre prénom. Quel joueur anglais a inscrit un doublé hier soir ?
Bellingham.
C'est qui ?
Anthony.
C'est Anthony.
Bien, Anthony.
Anthony, c'est Anthony qui a
gagné.
Anthony,
vous avez gagné là.
Pitkovski Duprat, 4-1.
Allez, tu peux faire une question impossible, Christophe.
Il reste du temps. Et je ne sais pas si j'ai préparé toutes les questions impossibles en plus. Question à élimination.
Ah, pardon.
Si, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Vous répondez à tour de rôle, une erreur et vous êtes éliminé. On a parlé tout à l'heure de France-Espagne en 2006, en 8e de finale à la Coupe du Monde. Zidane qui envoie tout le monde à la retraite. Je vous donne déjà un premier indice. Citez-moi les joueurs de l'équipe de France qui ont joué contre l'Espagne. Il y en a 13 en 8e de finale en 2006. On commence par Christophe. France-Espagne 2006.
Zidane,
bien sûr, je te l'ai donné celui-là. Hein. T'as vu, tu pourras plus rien dire. Sarah.
Ribéry,
bien sûr. Pierre.
Malouda,
t'es costaud. En plus. Pascal.
Barthez,
bien sûr. Christophe.
Thierry Henry,
bien sûr, était titulaire. On cherche les 13 joueurs qui ont joué contre l'Espagne en 8e de finale en 2006. Sarah.
Vieira, c'est pas lui qui
Patrick
marque.
Patrick Vieira, le deuxième but, bien sûr. On a écouté Gilbert avec moi. Salut, Pierre.
Makelele,
Claude était titulaire, bien sûr. Pascal.
Éric Abidal,
si vous voulez donner plus, il n'y aura pas de points attribués. Christophe.
Thuram.
Thuram, c'est bon. Attention, je mets le compteur maintenant. Sarah.
Voilà.
5.
Wiltord.
Wiltord. C'est bon. Pierre.
Sylvain de son prénom.
5. 4. 3. 2. 1. Éliminé. Il en reste 3. Pascal.
Sagnol.
Willy Sagnol, c'est bon, il en reste 2. Christophe. 5.
Govou.
Govou, franchement, là, je crois que j'ai quelqu'un triché autour de la table. Sarah.
William Gallas.
Oh, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Point n'est pas attribué parce que là, je n'ai que les tricheurs autour de la table. J'ai bien compris. Et surtout, Christophe Sichu qui est sur la page.
Mais pas du tout. Finale. Moi, je suis juste aidé par mes compatriotes. Mais pas du tout.
Pascal, on ne croit pas du tout à cette attitude.
Non, je ne crois pas du tout. Pas du tout.
Si on pouvait, on peut donner la composition de l'équipe d'Espagne. Donnons la composition de l'équipe d'Espagne, si vous voulez.
Je suis sûr que Sarah a tout. Pernia, latéral. Allez, on continue. 4-1, toujours pour l'équipe Pitkowski-Duprat. Question auditeur, Anthony et Halil. Qui est le dernier Britannique à avoir remporté Wimbledon?
Murray.
Pascal Duprat a dit Murray avant les auditeurs. Un point en moins pour l'équipe.
Oh non, question impossible. Question impossible.
Question impossible.
Oui, il l'a pas dit.
Christophe, est-ce que je l'ai préparé? Oui, je l'ai préparé. Christophe a marqué 3 points. Ça peut te permettre de passer devant puisqu'il y a 3-1.
Christophe, non mais Christophe, impossible. Il n'est pas tout seul à répondre au vélo. Là, il a tout
mais
son
si je suis tout seul, ils sont allés chercher les sandwichs.
S'il vous plaît, Kylian, s'il te plaît, Kylian Vérov, s'il te plaît, non, ne triche pas.
Bernard Hinault, que tu as reçu hier, qui est le blaireau, qui est un ami, a remporté le maillot vert une année sur le tour. En quelle année? Le maillot vert. En quelle année il a remporté le maillot vert?
79, je crois.
79.
Il avait fait le doublé, jaune et vert.
C'est pas possible. Franchement.
Ça fait 4-3. Attendez, c'est pas terminé. Question à une seule réponse. Nous sommes en 2026, il y a 50 ans, au JO d'été. Quelle championne olympique marquée à tout jamais l'histoire du sport?
Nadia Comaneci.
Nadia Comaneci, Pierre.
Oui, c'est Pierre.
Je l'ai dit, non?
Oh, la remontada incroyable!
Il l'a dit aussi, Pascal.
Il y a un décalage, en fait.
Mais le principe, c'est de ne pas.
Sinon, il n'y a pas la victoire.
Il y a un décalage horaire avec le VAR.
Je rappelle le principe, ce n'est pas de tous le dire, mais de le dire en premier. C'est ça le principe.
Oui, mais on est à 4 partout, là.
Pas du tout, puisque Christophe a marqué 3 points. Non, mais c'est bon, ça a gagné pour l'équipe, c'est sûr. Abadan et c'est gagné pour Halil. Félicitations à Halil. Tu remportes les 50 euros sur le site d'Agfa Photoprint.
Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
Oh là, Pierre Abadan, il nous a passé un drop entre les perches. C'était pas ton style, pourtant.
Ça, d'accord.
C'est la première fois que tu le passes.
Ça a été énorme, Pierrot.
Voilà, vous allez avoir un bel intégral tour avec Christophe, à partir de 16h.
Je vers le haut, Christophe.
Oh là là, arrêtez tous les deux. Merci Pierre, merci Sarah, merci Pascal, tu restes avec nous. Et puis Christophe, on te retrouve tout à l'heure dans l'intégral tour. Reste
à tout
avec
à l'heure,
nous.
Dans une heure.
Tout de suite, les paris RMC.
Ciao.
Salut à tous.